Personnellement, je dois dire que j'apprécie beaucoup qu'il ne fasse pas chaud. Parce que l'année dernière, il y en a peut-être qui n'étaient pas là, mais l'année dernière, c'était 35 degrés. C'était vraiment dur. Et donc cette année, on est au frais. Encore qu'ils ont changé maintenant. S'il fait chaud, on a des ventilateurs. Donc, je pense que tout le monde est là. Donc, ce dont je voulais parler cet après-midi, c'était en fait faire d'abord la connexion entre... entre la recherche, le regard profond et la compassion, en fait, et aussi, bien sûr, de vous présenter un autre aspect de cette méditation des qualités. Et là, c'est sur la joie appréciative, la joie altruiste. Et là, j'ai des phrases que j'ai pu adapter en français aussi et en anglais, en fait. Donc, l'ancrage va nous aider à avoir plus d'espace, plus de calme. Mais ça, dans un sens, ça ne va pas être suffisant pour avoir une transformation. Et donc, il faut un autre élément pour qu'il y ait transformation. Et cet élément, c'est un élément qui va utiliser le fait que cette aide, cet organisme, a un pouvoir, on pourrait presque dire, d'illumination, mais pas dans le sens de clarté. On a un pouvoir d'observation, on a un pouvoir de questionnement, on a un pouvoir d'exploration. Et donc cette idée de vipassana, regard profond, compréhension profonde, ça va être vraiment, il faut, parce que souvent, dès qu'on parle de vision, de compréhension, de clarté, on va souvent penser à une certaine analyse, à une certaine philosophie. Mais là, vraiment, ce terme vipassana se réfère à quelque chose qui est dans l'expérience. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas de partir dans des commentaires, dans des analyses abstraites, mais c'est vraiment d'être dans l'expérience de ce qui se passe. Et en fait, de répéter d'être avec cette expérience. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on part très vite dans la généralisation, dans le commentaire, donc souvent dans l'abstraction des faits, donc souvent dans l'association au passé, au futur. Et là, ce qu'on essaie de faire avec ce regard profond, c'est d'aller à l'intérieur de l'expérience. Que ça soit une sensation, une émotion, une pensée, une situation, on essaie vraiment de la considérer presque in situ, dans ce qui se passe, ici et maintenant. Et donc, quand on fait ça, donc bien sûr, dans une certaine optique, dans l'optique de la tradition vipassana, ça sera fait, cette recherche profonde, ça sera fait par rapport à certaines caractéristiques de la vie. Le fait que les choses sont changeantes, le fait que les choses ne sont pas... reliable.
On peut faire un posé dessus.
Fiable.
Le fait que les choses ne sont pas fiables, et aussi le fait que les choses sont conditionnées par d'autres choses. Donc elles ne vont pas exister indépendamment des autres choses sur lesquelles elles reposent. Et donc l'idée, c'est... Alors, le premier est plus facile, c'est pour ça que généralement la focalisation est là-dessus, parce que le changement, on peut vraiment en faire l'expérience. Par exemple, on peut remarquer que sur la joue, il peut y avoir, on sent que ça gratte. Donc, si ça gratte, on va se dire, ouh, ça gratte, il faut que je gratte. Mais si on ne gratte pas, et qu'on va juste à l'intérieur de la sensation intense, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, parce que c'est intense, que ça va durer très longtemps. Mais si on est juste avec, tout à coup, c'est parti. Si bien sûr, on n'a pas de l'eczéma, des choses comme ça, si c'est juste une petite sensation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, la sensation était tellement intense que ça nous donnait l'impression que ça allait durer très longtemps. Et donc, souvent, la généralisation est due à l'intensité. On peut pas, parce que ça occupe tout l'espace, on ne peut pas imaginer que ça va être autrement. Et donc, l'idée d'être avec le changement, c'est pour vraiment être dans l'expérience et de savoir par nous-mêmes que les choses peuvent changer. Et pour moi, c'est une grande pratique dans la vie de tous les jours, quand il y a une expérience, que ce soit un ressenti émotionnel ou physique ou quoi que ce soit, de poser cette question, combien de temps ça va durer ? Au lieu de tout de suite le fixer, ça va durer très longtemps. Et avec ce combien de temps ça va durer, on va à l'intérieur de l'expérience et on regarde. Si ça dure très peu de temps, généralement on n'a pas à s'en inquiéter. Si c'est répétitif, on peut voir comment la répétition se passe. Et si c'est très intense, on se rend compte qu'en fait, c'est parce que quelque chose est arrivé. Et donc, on peut commencer à avoir quelque chose de plus flexible par rapport à notre rencontre avec ce qui se passe, au lieu de catégoriser tout du même degré dans nos sens. Mais si je prends le premier, et comment je fais la connexion avec la compassion, c'est dans le sens, quand on prend cette idée du changement, cette expérience du changement, il y a d'abord le changement ultime, la mort. Et comment ce changement ultime peut-il, dans un sens, nous aider ? Moi, je pense que si on est conscient que notre vie repose sur un souffle, on va se regarder soi-même, regarder les autres différemment. Et moi, vraiment, c'est ce changement dont j'ai fait l'expérience quand j'ai vu mon père mourir, j'ai vu son dernier souffle, et à ce moment-là, j'ai vraiment compris d'une façon expérientielle, ceci. Et après, j'ai eu un autre regard sur les gens, un autre regard dans mon rapport avec ma mère. Au lieu de la rencontrer avec les histoires qu'on avait pu avoir, à partir de ce moment-là, je la rencontrais dans le moment où elle était, en tant qu'être humain. Et je pense que ça peut beaucoup changer les relations. Est-ce qu'on rencontre les gens maintenant dans le passé, ou est-ce qu'on rencontre les gens ici et maintenant, comme ils apparaissent ? Et je pense que là, on peut vraiment toucher plus l'être humain. On peut aussi avoir plus de compassion pour l'être humain. Cette vie qui est fragile. Mais l'autre aspect qui est très important du changement, c'est le fait qu'en fait le changement nous dit qu'il y a un potentiel de changement. Et pour moi, ça c'est vraiment un mouvement bienveillant, un mouvement de compassion, que quand on est en relation avec soi-même ou relation avec les autres, notre approche est: je peux changer, ils peuvent changer. Ils ont un potentiel de changement. Cela ne veut pas dire qu'on va changer rapidement. Mais on a ce potentiel. Et pour moi, c'est vraiment un rapport très non bienveillant. Quand on part dans un truc où on se dit « je suis toujours comme ça, je ne changerai jamais ». Parce que là, c'est vraiment implacable. Ça empêche ça nie la possibilité du changement. Ou, avec d'autres personnes, tu fais toujours ça, tu ne changeras jamais. Et moi, je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'en chaque personne, il y a une graine de changement. Il y a quelques années, je lisais un livre qui avait été écrit par quelqu'un qui avait réussi à arrêter d'être addict. Et donc, il avait fait son propre livre, et après, il avait décidé de faire un livre pour trouver le moment, pour que les gens puissent décrire le moment où ils avaient changé, et qui étaient addicts aussi à l'alcool, aux drogues, comme ça. Et ce qui était très intéressant, c'était que les gens pouvaient être dans des situations impossibles, mais vraiment impossibles. Et donc on pourrait se dire, mais vraiment ces personnes sont finies, ils n'arriveront jamais à s'en sortir, ils sont vraiment coincés, ça fait la 10e fois qu'ils font leur cure, et ils retombent tout le temps, donc on pourrait avoir l'impression qu'ils ne vont pas changer. Et ce qui était pour moi beau dans ce livre, c'était qu'il montrait les moments où finalement, le potentiel de la personne était éveillé. Alors, et c'était tous ces moments dans un sens d'une certaine prise de conscience ou de pouvoir de la personne qui se réveillait et qui décidait « maintenant, j'arrête ». Et c'était très beau de voir que quoi que ce soit les circonstances, même si elles étaient vraiment impossibles, tout à coup, il y avait ce changement. Et donc, cette idée de changement, pour moi, c'est ça qui est une des idées très importantes, c'est d'avoir dans un sens cette confiance, cette bienveillance par rapport à soi-même et aux autres, qu'à un moment donné, il peut y avoir un changement. Même si maintenant, ça peut avoir l'air un peu coincé, un peu difficile. Après, le deuxième, c'était quand ce n'est pas fiable, que les choses ne sont pas nécessairement satisfaisantes tout le temps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un certain contentement. Mais là, celle qui m'intéresse dans celle-là, c'est parce que ce deuxième, ça s'appelle dukkha. Et dukkha, généralement, c'est traduit par la souffrance. Mais dans les caractéristiques, quand il y a dukkha, et qu'on nous dit d'avoir un regard profond sur dukkha, en fait, celui-là, ce dukkha, c'est dukkha-dukkha. Et donc, c'est vraiment... parce que le dukkha dans les quatre nobles vérités, c'est un peu différent que celui-là. Et celui-là, vraiment, a un rapport avec la souffrance. Que ce soit une souffrance mentale, une souffrance physique, une souffrance émotionnelle, une souffrance des circonstances... Et je pense que si on vraiment... Le truc, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on souffre? Quand on souffre, c'est déplaisant, c'est désagréable. Et généralement, on va essayer de le rejeter, d'arrêter. Il y a souvent beaucoup d'amplification. Et la pleine conscience et le regard profond peuvent nous aider à être avec cette souffrance, à comprendre cette souffrance... Et dans un sens, à réaliser que quand on souffre, il y a deux choses. La première, c'est qu'on souffre, ça fait mal. Et la deuxième, c'est qu'on est isolé. Personne ne peut faire l'expérience de notre souffrance. Et donc, je pense que si vraiment on comprend cela profondément, on aura un regard différent sur sa souffrance, sur la souffrance des autres, et on aura immédiatement cette compassion, parce qu'on saurait cette personne souffrant, et cette personne est isolée. Et il y a des fois des gens qui me disent, mais bon, les gens sont difficiles d'être avec eux, bon, pour avoir de la compassion, c'est pas facile, et tout ça. Et donc, je ne dis pas qu'il faut toujours être compassionné de la même façon, et d'être toujours avec des gens difficiles. Mais la question que moi je poserai souvent, c'est si par exemple c'est quelqu'un à qui vous devez parler une fois par semaine au téléphone. vous passez une heure ou une demi-heure au téléphone, c'est difficile, c'est pas facile. Mais vous, vous passez une heure par semaine avec cette personne est avec elle-même 24 heures sur 24. Et donc, de voir les conditions, de comprendre profondément les conditions, il peut y avoir cette compassion qui apparaît. Et le troisième, c'est en fait de regarder la conditionnalité. Alors, dans la pratique même de la méditation, généralement, je ne recommanderais pas tellement d'essayer d'avoir un regard profond sur la conditionnalité, parce que quand on est assis en méditation, la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et donc, si on part dans le regard sur la conditionnalité, on va partir dans quelque chose d'assez abstrait. Mais en général, je recommanderais de faire cette méditation, son regard profond sur les conditions, dans la vie quotidienne. Parce que dans la vie quotidienne, là, on a un champ qui va être vraiment vaste. Et là, vraiment, pour moi, c'est dans la vie quotidienne une grande pratique de regarder les conditions. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à coup, j'ai un certain ressenti. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, des fois, c'est mystérieux. On ne sait pas pourquoi on ressent ce que l'on ressent. Mais des fois, on peut voir, ah, j'ai entendu ça, j'ai eu mal là, j'ai vu ça, et à cause de ce contact, je ressens ceci. Et pour moi, ça c'est vraiment une pratique qui est assez importante de vraiment de voir, oh, surtout avec la tonalité du ressenti, agréable, désagréable, neutre, de voir que ça a une telle action influence sur la façon dont on parle, la façon dont on agit. Parce que bien sûr, on a l'intention de la bienveillance. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on va agir avec bienveillance et est-ce que le résultat va être bienveillant ? C'est donc d'avoir les trois ensemble. Mais qu'est-ce que, comme je disais ce matin, quel va être l'obstacle à la bienveillance ? Et je dirais en fait un des obstacles à la bienveillance, c'est dans un sens la souffrance de faire l'expérience d'une tonalité désagréable. On a une réaction très rapide à une tonalité désagréable. Et des fois, ce qu'on peut voir, c'est que il y a quelque chose ici qui fait que j'ai une tonalité désagréable, et puis tout à coup, je suis en train de transmettre cette tonalité désagréable à quelqu'un d'autre qui n'a rien fait. Et c'est ça qui est intéressant avec les conditions. De voir, ah, je suis en train de parler avec cette personne un peu durement, mais ils n'ont rien fait. Pourquoi ? J'ai soudain ce ton. Et donc, c'est à ce niveau-là, ça peut être très intéressant de voir, d'être conscient de la tonalité du ressenti. De voir, dans un sens, le contact, les conditions. On se sent neutre. Quel est notre rapport au neutre ? On se sent bien. Alors, généralement, si on se sent bien, ça passe relativement bien. On est très sympathique. Si on se sent bien. Mais si on se sent mal, ah, c'est intéressant de voir comment on est influencé par la tonalité désagréable. Qu'est-ce que ça nous amène à faire ? Mais même la tonalité agréable, des fois, nous fait aller trop vite. Si on devient excité par quelque chose de très agréable, on peut soudainement parler vite ou faire des choses. Il y a un peu une perte d'équilibre. Et donc, avec ce regard profond, on va explorer les différentes conditions. Et aussi, je pense, avec ce regard profond sur la conditionnalité, parce que qu'est-ce que la conditionnalité dit ? C'est qu'en fait, on n'existe pas indépendamment des conditions qui nous forment et des conditions que l'on rencontre. Et donc, ça veut dire qu'on est un flot de conditions intérieures qui rencontrent les conditions extérieures. Et L'idée, c'est un peu comment je vais m'engager créativement avec ces conditions. Et souvent, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on va s'accrocher à une des conditions du flow. Et à tout moment, il y a plein de conditions. Et pour moi, la méditation, c'est en fait une exploration des conditions intérieures, extérieures. Mais là, souvent, on va s'accrocher à une condition, une pensée, une sensation, un ressenti, une relation, un problème, quoi que ce soit. Et ça, généralement, c'est très douloureux. Parce qu'on est quand même cette tête qui est multi-perspectivale, qui a beaucoup d'aspects. Et tout à coup, cet être qui a tous ses sens, qui a tout ce pouvoir de clarté, de relation et tout ça, qui a tout ce potentiel dans un sens, et tout à coup, tout ça, pouf, on le réduit juste à une chose. On le réduit à un sentiment de colère, on le réduit à un sentiment de tristesse, de peur, on le réduit à une sensation, on le réduit à une difficulté. Mais on est plus que ça. Et donc ce regard profond, c'est pour nous aider, parce qu'on part très vite dans la réduction, dans l'accrochage à un des éléments qui nous constitue. Et donc ce regard profond va nous aider de nouveau, à ouvrir, à voir que oui, j'ai cette pensée, oui, j'ai cette sensation, oui, j'ai ce ressenti, mais c'est dans une perspective multiple, où j'ai un potentiel créatif. Parce que si on part que dans une chose et on se réduit qu'à une chose, le potentiel créatif, il n'a pas de place. Je dirais qu'en fait, la méditation, c'est pour nous aider à accéder, manifester ce potentiel créatif. De telle sorte qu'il ne soit pas continuellement réduit à une portion congrue de ce qui se passe, mais de nouveau, donc, il y a une tendance à réduire. L'engagement créatif, la pleine conscience, le regard profond va nous aider à l'élargir. Donc on va avoir une plus grande perspective. Aussi, on va être conscient qu'on a plein de qualités qui peuvent nous aider à faire face. Et c'est là un sens où on pourrait presque avoir entre ça et la méditation qu'on va faire cet après-midi, qui est la méditation de l'appréciation. Mais avant de parler de ça, juste brièvement, un autre aspect de la conditionnalité en connexion avec la compassion et la bienveillance, c'est le fait de se poser cette question. De quoi ma survie dépend? Et si on se pose cette question avec ce regard profond, cette recherche expérientielle, et qu'on se dit, mais de quoi, comment, ici et maintenant, je survis? Eh bien, on se rend compte qu'en fait, ça ne dépend pas de nous. On survit à cause de l'air, de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, de la nourriture qu'on mange, des habits qu'on porte, des médicaments qu'on prend si on en a besoin, des maisons dans lesquelles on habite, etc., etc. Et c'est à cause de ça qu'on peut survivre. Et donc, dans un sens, on survit grâce à beaucoup de conditions qui sont extérieures à nous-mêmes. Et donc, ce regard profond peut, dans le sens, dissoudre ce sentiment souvent qu'on a d'isolation, de sorte qu'on est isolé par rapport au monde externe. Et en fait, cette méditation du regard profond nous reconnecte avec toutes les conditions qui nous aident à vivre. Et ainsi de voir qu'on est connecté avec le monde. Et donc c'est pour ça que de voir que le regard profond, c'est vraiment d'aller dans l'expérience et à travers cette expérience du changement, de la douleur, de la conditionnalité, en fait ça transforme d'une certaine manière notre rapport notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres. Et pour moi, ça apporte généralement de la compassion, de la bienveillance. Et donc, de nouveau, on revient à ce que j'avais proposé, qu'il y a une manière directe de cultiver la bienveillance et la compassion en utilisant les phrases. Et il y a aussi une manière indirecte de cultiver la bienveillance et la compassion en développant, pratiquant le regard profond. Vraiment faisant cette expérience du changement, de la douleur, de la conditionnalité. Et donc, c'est la pratique que je voudrais introduire cet après-midi, c'est ce qui s'appelle mudita. Alors ce matin, comme il a été mentionné, c'était la bienveillance qui vient du terme pali, de l'ancien langage bouddhiste, metta, M-E-T-T-A. Et il y a un autre terme, une autre qualité que l'on peut cultiver, et c'est mudita, M-U-D-I-T-A. Et donc là, ce terme veut dire joie appréciative, joie altruiste. Et donc c'est une très belle qualité. Et le Bouddha, parce que souvent on a l'impression que dans le bouddhisme on est tous un peu tristes, la souffrance, et que l'impermanence et tout ça. Mais en fait le Bouddha disait que la bienveillance, la compassion, la joie étaient des qualités vraiment importantes de cultiver. Et donc l'appréciation, mudita, parce qu'il pensait que chacun était comme un antidote. Par exemple, la compassion, c'était un antidote à la cruauté. La bienveillance était un antidote à l'agressivité. Et la joie, c'était un antidote à l'envie. Ou on peut presque dire de nos jours, l'antidote à un sentiment de manque. Qu'il me manque, parce que souvent on est dans la comparaison négative. Il me manque ceci, il me manque cela. Les autres ont ceci, moi je ne l'ai pas. Et donc, dans cette pratique de la joie, donc j'ai trois phrases. Et ça, c'est des phrases modernes, hein, je les ai fait moi-même. Parce qu'autrement, c'est que votre bonheur continue, que votre bonne fortune ne diminue pas, des choses comme ça. Alors là, j'ai pu trouver des trois phrases qui, je pense, pour combiner de nouveau un certain ancrage, un certain regard profond. Donc, je vais vous dire les trois phrases et après je vais expliquer un peu pourquoi je propose ces trois phrases. Alors, il y a trois verbes. Apprécier, se réjouir, avoir de la gratitude. Il y a trois objets, enfin il peut y en avoir plus, mais il y a effort. Après celui du milieu pour réjouir, on peut mettre différentes choses, bonheur, succès, compréhension. Après le dernier, la gratitude, on peut mettre existence ou on peut mettre potentiel. Puis après il y a des pronoms qu'on peut aussi jouer un petit peu avec, et on peut faire « mais » ou « c'est », et après « votre ». Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc la première phrase, c'est « appréciant mes efforts » ou « appréciant ses efforts » ou « appréciant vos efforts ». Alors, pourquoi je mets l'appréciation avec effort? De nouveau, ça nous ramène au thème de ce week-end, l'effort bénéfique. C'est parce que, comme je disais avant, on a un rapport difficile avec effort. Et donc, généralement, on a cette idée que l'effort doit être égal à l'effet. Et donc, on interchange effet pour effort. Ce qui veut dire que si on n'a pas l'effet, on n'a pas fait d'effort. Et donc, on fait seulement de l'effort, c'est un vrai effort, s'il y a eu l'effet. Et quand je dis appréciant mes efforts, c'est vraiment d'être dans l'appréciation des efforts qu'on fait. Et de voir que, généralement, dans les circonstances qu'il y a, on fait du mieux qu'on peut. Parce que souvent, on est dans l'idée que je n'ai pas essayé assez fort. Je n'ai pas mis assez d'efforts. Si j'avais mis plus d'efforts, j'aurais eu l'effet. Si je n'ai pas eu l'effet, c'est que je n'ai pas bien essayé. Ou que mon effort n'était pas bon. Mais il y a beaucoup de chances que vous ayez essayé du mieux que vous pouvez, mais pour quelque raison que ce soit, l'effet n'était pas là. Et ça, je le connecterai un peu au passé aussi. Souvent, on est assis en méditation, puis on se dit « Ah, dans le passé, j'ai fait ci, si seulement j'avais fait ça, oui, si j'avais essayé ça, si mon effort avait été comme ci, comme ça. » Et moi, ce que je dis, c'est que appréciez l'effort que vous avez fait dans le passé, même si ça n'a pas marché. Parce qu'à ce moment-là, vous avez fait du mieux que vous pouvez, considérant la situation et ce que vous sachiez. Alors maintenant, vous feriez différemment, mais vous n'êtes pas là-bas. Et donc, est-ce qu'on peut accepter ces efforts, apprécier ces efforts? Et après, on peut jouer un petit peu entre, par exemple, mon effort, appréciant mon effort, ou mes efforts, si on le met au pluriel, et appréciant cet effort. Et là, c'est plus par rapport à l'identité quand on dit « c'est à moi » ou quand on utilise « ce », qui est quelque chose de plus neutre. Et donc, on peut voir, est-ce que ça fait une différence si je dis « mon effort » ou si je dis « cet effort ». Après, c'est à vous de voir, parce que c'est votre effort de toute façon. Moi, j'ai aucun problème avec le pronom « mon », mais si vous voulez voir, est-ce que ça fait une différence? Après, il y a « appréciant vos efforts ». Et là, il y a la même chose. On a tendance à dire « oh là là, si ça ne marche pas, ils essaient pas assez. Il faut qu'ils essaient plus. Il faut qu'ils mettent plus d'efforts. » Ou on se dit « ah ben moi, je le fais facilement, pourquoi ils ne peuvent pas le faire ?» Alors là, ça c'est l'égalitarisme un peu problématique, parce qu'on a des conditions différentes. On n'a pas toutes les mêmes, on n'a pas tous toutes les mêmes capacités. Et donc, pour moi, c'est pas, dans le sens, c'est pas de la compassion de dire « ah, mais si je peux le faire, ils peuvent le faire. » Des fois oui, des fois non. Et donc, dans le sens d'apprécier les efforts de l'autre du point de vue de l'autre et non de notre point de vue. Je pense que ça, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment totalement allié à un regard bienveillant, un regard de compassion. D'essayer de voir, d'accepter, d'apprécier, même si ça a l'air d'un tout petit effort. Pour eux, ça pourrait être un effort immense. Il y a cette dame que je suis sur Twitter, en anglais, et elle est bipolaire. Et donc, elle est devenue connue sur l'Internet parce qu'elle avait écrit un blog et il y avait les 10 choses à ne pas dire à quelqu'un qui est vraiment dépressif. Et la première chose à ne pas dire, c'était « il faut que tu essayes plus ». Il faut que tu mettes plus d'efforts. Parce qu'elle disait, mais pour eux, de faire un tout petit effort, c'est herculéen. Alors, tu ne peux pas leur demander de faire un effort comme toi et moi, ils n'ont pas les mêmes conditions. Et donc, vraiment, de considérer quand les gens font des efforts dans leurs conditions, dans leurs circonstances. Donc, appréciant mon effort, cet effort, vos efforts. Après, il y a la deuxième phrase, me réjouissant de mon bonheur, de mon succès, de ma compréhension. Et là, c'est vraiment de voir que nous aussi, on peut faire l'expérience du bonheur, du succès, de la compréhension, de la sagesse. que ce n'est pas les autres qui ont ça. Que nous aussi, on a une habilité à comprendre quelque chose, à avoir de la compassion, à être heureux. Et pour moi, la joie appréciative, la joie altruiste, je pense, c'est un élément vital d'être conscient des tonalités agréables. De ne pas prendre les tonalités agréables comme acquises, mais de voir que oui, oh, ici et maintenant, je suis bien. Ok. D'en être conscient, de vraiment le ressentir, la connaître, au lieu de se dire « c'est normal ». Mais « ah, je suis bien », « ah, je suis en paix », ou « ah, j'ai un mouvement de compassion ». Et de voir ça, « ah », de se réjouir du fait qu'on a cette capacité, qu'on a cette qualité. Je pense que ça, c'est très important. Parce que souvent, on se dit « ah, mais l'autre, il a plus de succès, l'autre, il a plus de bonheur, l'autre ». Et dès que vous partez dans la comparaison, ça, immédiatement, ça diminue. Ça, c'est comme les gens qui sont écrivains, là, au début, maintenant plus trop, mais au début, c'était quand il y a eu Amazon, la première chose que tout écrivain regardait, c'était son ranking. C'était son rang dans Amazon, qui est à l'opposé de ce qu'on pense. Si vous avez 1 million, c'est très mauvais. Il y a peut-être 2 personnes qui achètent votre livre dans l'année. Mais si vous avez seulement 10, alors là, il y a plein de gens qui achètent votre livre tous les jours. Et donc, ça, c'était la première chose qu'on allait voir, c'est quel est le ranking, quel est le rang, combien, quel est le nombre, est-ce qu'il y a moins de 0. Et donc, dès qu'on regarde ça, à moins qu'on soit la personne qui est numéro 1, on a beaucoup de zéros. Alors comment on voit ces zéros? Au moins si vous avez des zéros à 1 million ou 900 000, au moins vous êtes déjà là. Hein? Parce que si vous n'avez pas de zéros, vous n'êtes pas là du tout. Mais est-ce que on juge ces qualités d'écrivain ou de quoi que ce soit par rapport au rang de l'autre? Ou est-ce que c'est par rapport à nous-mêmes? Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment aussi regarder. Comment on compare, qu'est-ce qu'on compare, et quand on compare négativement, comment ça peut déprécier le travail que l'on a fait soi-même. Après, il y a l'autre question, c'est se réjouissant de votre bonheur, de vos succès. Alors, on n'est pas sûr. Est-ce que je vais me réjouir du succès de l'autre? Est-ce que je vais me réjouir du bonheur de l'autre? Et là, il y a 2 choses qui se passent. Une chose, c'est qu'on a une tendance à penser qu'il y a seulement un carré comme ça de bonheur. Et si quelqu'un en a un quart, ben nous, on a perdu ce quart. Donc, si on a perdu ce quart, ça ne vaut pas le coup. On n'est pas intéressé par le reste. On veut ce quart et le reste. C'est intéressant, hein, de penser. Pareil pour le succès. Si quelqu'un a un quart de succès, on ne va pas l'avoir. Au lieu, est-ce qu'on peut se réjouir du bonheur de l'autre, du succès de l'autre? Et ça, c'est quelque chose, je pense, c'est vraiment une pratique dans la vie quotidienne, parce qu'il y a les gens qui viennent à vous et qui vous disent « Ah, j'ai cette bonne nouvelle, je suis tellement heureuse, c'est fantastique ce qui m'arrive. » Et vous êtes là à dire « Ouais, à pinailler, ouais, maintenant c'est moi, mais tu sais pas ce qui va arriver, puis après il y a ça, puis après... » Alors, il vous arrive avec comme ça, puis il repart, pouf, comme ça. Mais est-ce que ça, c'est de la bienveillance? Et pourquoi faire ça? C'est ça, c'est intéressant. Pourquoi s'inquiéter à l'avance et pas se réjouir ici, maintenant, avec eux? On ne sait pas ce qui adviendra plus tard. Pour moi, ça, c'est vraiment une pratique de vraiment rester dans l'immédiateté du bonheur de la personne, de partager ce bonheur, d'être avec eux dans ce bonheur, et de ne pas le titiller. Et puis il y a la troisième phrase, c'est « ayant de la gratitude pour mon existence, pour cette existence, pour votre existence. Et de nouveau, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup quand j'étais en Corée. Ils ont cette grande notion de la gratitude. Et je trouve que c'est vraiment une belle qualité à développer. Et donc, ils ont vraiment cette notion de gratitude envers tout ce qui nous aide à survivre, en fait. Que ce soit la société, que ce soit ce qui immédiatement nous aide à vivre, que ce soit notre famille. Il y a ce très grand concept de gratitude. Et donc ici, dans un sens, c'est, on ne sait plus pourquoi on est né, on existe, mais on existe. Et donc on a ce potentiel d'existence. Est-ce qu'on peut avoir de la gratitude pour ça? Et après, il y a ayant de la gratitude pour votre existence. Alors là, c'est une autre question. Généralement, les gens qu'on aime bien, d'accord. Les gens neutres, ouais. Les gens difficiles, ouh, là, je ne sais pas. Alors là, on peut utiliser un autre mot, potentiel. Donc c'est pour ça que j'ai introduit potentiel, parce que les gens me disaient, oh là, les gens que j'aime pas, je ne suis pas sûre. Et donc, ayant de la gratitude pour le potentiel de soi-même ou de l'autre. De nouveau, il y a des gens qui ont un peu des problèmes avec la gratitude pour leur existence. Donc on peut jouer un peu avec ces deux termes. Donc la façon dont on fait la méditation, là je vais faire après cela une méditation guidée là-dessus, mais de nouveau, c'est la même façon qu'avec les phrases de la bienveillance. Soit on répète les phrases avec les différentes catégories, appréciant mes efforts, appréciant vos efforts, se réjouissant de ma compréhension, se réjouissant de votre succès, ayant de la gratitude pour mon existence, ayant de la gratitude pour votre potentiel. Donc on peut répéter les phrases. Si elles ont l'air un peu compliquées, on peut répéter juste une phrase. On n'a pas besoin de répéter les trois. Donc on voit comment les phrases marchent avec nous. Et après, bien sûr, si de répéter les phrases est un peu artificiel, on peut essayer de nouveau de se connecter avec l'expérience. Et là, de nouveau, de se poser un peu cette question, qu'est-ce que je peux apprécier ici et maintenant? Thich Nhat Hanh, le maître vietnamien, fait beaucoup ça. Apprécier qu'on voit, apprécier qu'on entend, etc., etc. Donc, se connecter, pas qu'est-ce que j'apprécie 100%, mais est-ce que je peux avoir un peu d'appréciation ici et maintenant? Ou est-ce que je peux me réjouir un petit peu ici et maintenant? Ou est-ce que je peux avoir de la gratitude ici et maintenant? Ou on peut le faire par rapport, on pourrait presque dire, à la résonance de la qualité. Donc, dans un sens, là, on vient plus dans la qualité. Quand j'apprécie quelque chose, quel est le ressenti? Quand je me réjouis, quel est le ressenti de cette qualité? Quand j'ai de la gratitude, quel est le ressenti de cette qualité? Et donc, c'est la pratique que je suggère qu'on fasse cet après-midi. Et je voulais juste finir avec une petite histoire par rapport à ça. J'ai une amie, une fois, une enseignante de méditation, qui avait décidé, il y a quelques années, d'aller les faire un mois juste sur cette qualité. Et elle me disait au début, quand j'ai commencé mon mois, il y avait toutes ces choses qui me manquaient, je me comparais négativement, j'avais tous ces problèmes, etc. Elle me dit, à la fin, c'était comme si je planais, parce que j'avais toute cette appréciation pour des tas de choses qui rendaient ma vie mais très très riche. Et donc, c'est pour ça que le Bouddha dit que c'est une antidote à l'envie, c'est une antidote à la comparaison. Parce que ça nous aide vraiment à voir qu'est-ce que nous, on a, avant de comparer à ce que les autres ont. Et donc, on regarde les choses d'un aspect différent. Au lieu de regarder, de mettre l'emphase sur ce qui nous manque, on est vraiment dans l'existence dans l'expérience de l'existence de ce qui est. De ce qui, en fait, de nouveau, nous ramène à notre survie, à notre potentiel, à notre développement. Donc, c'est ce que je suggère qu'on fasse. Est-ce que c'est relativement clair ? Ok, alors on va se lever, s'étirer un petit peu. Donc, si on trouve une position confortable, donc le dos est droit, les épaules sont ouvertes. Et doucement, on s'oriente vers l'appréciation. Donc, on peut utiliser les phrases pour commencer. Appréciant cet effort, me réjouissant de ce bonheur. Ayant de la gratitude pour cette existence. Donc nous pouvons répéter les phrases ou nous pouvons nous connecter à l'expérience. Qu'est-ce que je peux apprécier ici et maintenant? De quoi puis-je me réjouir ici et maintenant? Puis-je avoir de la gratitude ici et maintenant? Où on peut se connecter avec la qualité. Que ressentons-nous quand nous apprécions quelque chose? Que ressentons-nous quand nous nous réjouissons? Quelle est la résonance de la gratitude? Maintenant, nous nous tournons, nous nous ouvrons aux personnes dans cette salle, peut-être la personne devant nous ou derrière nous, appréciant vos efforts, me réjouissant de votre bonheur, ayant de la gratitude pour votre existence. Maintenant, nous ouvrons notre cœur aux vies en dehors de cette pièce. Les arbres, les animaux, les personnes. Appréciant vos efforts, me réjouissant de votre développement, ayant de la gratitude pour votre potentiel. Maintenant, nous ouvrons notre cœur aux personnes que nous aimons, qui nous soutiennent, appréciant vos efforts, me réjouissant de votre succès, ayant de la gratitude pour votre existence. Maintenant, nous ouvrons notre cœur aux gens envers lesquels nous sommes plutôt neutres, appréciant vos efforts, vous réjouissant de votre compréhension, ayant de la gratitude pour votre potentiel. Maintenant, on ouvre notre cœur aux personnes avec lesquelles on a un peu de difficulté, appréciant vos efforts, me réjouissant de votre développement, ayant de la gratitude pour votre potentiel. Et maintenant, nous revenons à notre expérience. Puis-je apprécier quelque chose dans mon expérience, ici et maintenant? Puis-je me réjouir de quelque chose, ici et maintenant? Puis-je avoir de la gratitude, ici et maintenant? j'apprécie quelque chose, qu'est-ce que je ressens? Quand je me réjouis, qu'est-ce que je ressens? Quelle est la résonance d'un moment de gratitude? Donc maintenant, il y a 30 minutes de méditation marchée jusqu'à 3h45. Donc si la cloche peut être sonnée à 3h40. Et donc pendant la méditation marchée, pareillement, vous pouvez essayer d'apporter cette direction, cette intention d'appréciation, de se réjouir, d'avoir de la gratitude. Alors, soit envers soi-même ou soit envers ce avec quoi on est en contact. Donc ce que l'on voit, ce que l'on entend, les gens que l'on rencontre. Et puis on se retrouve ici dans 30 minutes.